Alors ce matin, nous allons une fois de plus étudier la foi de Jésus et j'inviterai ceux qui assistent à cette présentation, ceux qui verront cette présentation, à bien faire attention à ce que nous avons dit la fois précédente. Sinon, il y a certains éléments qui ne pourront pas être compris dans la présentation d'aujourd'hui. Mais bien plus qu'une simple présentation, nous avons besoin de la présence de Dieu pour comprendre sa parole. Et c'est pour cela que je vous inviterai à vous prosterner avec moi pour demander à notre Dieu de nous conduire, de nous éclairer. Tendre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole afin d'être enseigné et de recevoir là, cette nourriture dont nous avons besoin. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint afin que tu puisses nous conduire et nous éclairer et nous conduire dans la vérité. Montre-nous, Seigneur, ce qu'est ta justice et surtout le moyen d'y accéder. Merci de bien vouloir exaucer cette prière dans le nom et par les mérites de Jésus. Amen. Avez-vous déjà entendu des personnes dire que la doctrine n'est pas importante? Je vous pose la question parce que j'ai déjà, pour ma part, entendu des personnes dire que la doctrine n'est pas quelque chose qui est important, ou du moins qui n'est pas de la plus haute importance. Cependant, d'après ce que nous avons vu dans la première étude, nous savons à présent qu'une telle idée ne vient pas de Dieu. Mais il y a plus, mes amis. En effet, en 1 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10, je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Timothée, la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10. 1 Timothée 1, versets 8 à 10. Et nous lisons que, or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime. Et qui sait que la loi a été établie non pas pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans religion et les profanes, pour les meurtriers de père et de mère et les homicides, pour les fornicateurs, les sodomites, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Mes amis, la Bible déclare que la loi de Dieu est contraire. Elle s'oppose à tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Cela signifie que tant ceux qui prêchent que ceux qui acceptent, qui écoutent et qui acceptent de fausses doctrines sont conduits à être condamnés par la loi de Dieu. Par conséquent, ceux qui gardent la foi de Jésus, sa doctrine, sont conduits à l'obéissance de la loi de Dieu. Considérons à présent cette dernière, c'est-à-dire l'obéissance à la loi de Dieu. En Apocalypse, chapitre 13 et au verset 5, nous voyons que l'image de la bête conduit le monde à la loi, à obéir à la loi de la bête. Et, mes amis, Nous comprenons alors que Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, conduit ceux qui gardent sa foi à obéir à la loi de Dieu, d'après ce que nous voyons dans Apocalypse 14, 12. L'image de la bête conduit le monde à transgresser la loi de Dieu. Or, nous savons que la transgression de la loi de Dieu est péché. En effet, en 1 Jean, chapitre 3 et au verset 4, rendons-nous en 1 Jean, chapitre 3, et lisons le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, et lisons le verset 4, où il nous est dit: quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. En plus de cela, mes amis, l'Écriture déclare que le péché et l'injustice sont la même chose. En effet, en 1 Jean, chapitre 5 maintenant, rendons-nous en 1 Jean, chapitre 5, et au verset 17, nous lisons que toute injustice est un péché, d'après ce que nous lisons dans Louis II, 21. La transgression de la loi de Dieu, ou le péché, est égal à l'injustice. Par conséquent, l'obéissance à la loi de Dieu doit être égale à la justice. Et cela est confirmé par le verset 142 du psaume 119. Rendons-nous ensemble dans le psaume 119 et considérons le verset 142. Psaume, le livre des psaumes, et le psaume 119. Et considérons-y le psaume 142. Où nous lisons que « Ta justice est une justice éternelle et ta loi n'est que vérité. » Amen. Mais également dans Ésaïe chapitre 51. Rendons-nous dans Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51 et au verset 7, où nous lisons, Ésaïe 51, verset 7, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. » Ok? Si je m'arrête là, nous comprenons que ils connaissent la justice de Dieu et dans leur cœur, il y a la loi de Dieu. Donc, nous comprenons que la justice est l'observation de la loi, mes amis, sont la même chose. Ainsi, la foi de Jésus conduit le croyant à la justice de Dieu. Et arrivé ici, nous pouvons commencer à avoir une compréhension profonde de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Rendons-nous dans Matthieu, chapitre 6 et au verset 33. Ouvrons nos Bibles. Rendons-nous dans Matthieu, chapitre 6 et au verset 33. Et je pense que nous connaissons ce passage où il nous est dit: mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par Jésus. Ici, Jésus était en train de conduire ses auditeurs, ses contemporains. Jésus était en train de les conduire à la substance même du message du troisième ange. C'est-à-dire à l'observation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Nous avons besoin de comprendre que le plan du salut implique deux êtres personnels, divins. Deux êtres divins, mes amis. Uniquement deux êtres divins. En effet, le Père et le Fils sont les deux êtres personnels divins qui sont impliqués dans le plan du salut. En Matthieu 6, 33, il nous faut rechercher le royaume de Dieu et sa justice. En Apocalypse 14, 12, le peuple des saints garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En Ésaïe 8, verset 20, il est question de la loi et du témoignage. Et en Apocalypse 12, verset 17, il est question des commandements de Dieu et de la foi de Jésus, mesdames. Le plan du salut implique bel et bien deux êtres personnels divins. Et voyez-vous, comme nous pouvons le voir dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus présenta la recherche du royaume et de sa justice comme étant un ordre, comme étant un commandement. Et il donna ce commandement telle une priorité dans la vie du croyant. Et la raison de cette priorité fut exprimée par David au verset 3 et 6 du psaume 24. Rendons-nous ensemble dans le psaume 24. Psaume numéro 24. Le psaume de David, numéro 24. Et considérons les versets 3 à 6. Psaume 24, versets 3 à 6, où nous disons « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté ? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent ta face, la race de Jacob. » Mes amis, la justice de Dieu est une chose si importante qu'elle sera la première caractéristique que l'on relèvera chez le peuple de Dieu lorsque le temps de grâce sera terminé. En effet, en Apocalypse, chapitre 22, rendons-nous maintenant dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, et au chapitre 22. Et au verset 11 de ce chapitre, nous lisons la déclaration solennelle et terrible suivante. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Ceux qui seront prêts pour et lors de la seconde venue de Jésus seront ceux qui seront trouvés justes en gardant les commandements de Dieu, mes amis. Mais malheureusement, en raison de l'influence de la papauté, la majorité de ce que l'on appelle la chrétienté rejette la vérité selon laquelle les croyants peuvent et doivent rendre une obéissance parfaite à la loi de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements. Et voyez-vous, nous déplorons cela, car des âmes sont conduites ainsi, des âmes sont ainsi conduites à rejeter l'évangile que Paul prêcha aux premiers croyants qui vivaient à Rome. Dans l'épître de Paul aux Romains. Rendons-nous ensemble à présent dans l'épître de Paul aux Romains et considérons le chapitre 1er. Romains, chapitre 1, et lisons les versets 16 et 17. Romains, chapitre 1, versets 16 et 17, où il nous est dit « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite. Car en lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » L'évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut. Mais pour qui? Pour celui qui croit. Et comment fonctionne cette attribution de la justice? L'apôtre déclare que c'est de foi en foi. Mais est-ce que cela signifie que je peux vous donner ma foi dans le but d'arriver à cette justice, dans le but d'atteindre cette justice? Bien entendu que non. Alors, quelle est cette foi? L'inspiration nous dit que la justice de Christ est révélée de foi en foi, c'est-à-dire de votre foi actuelle à une compréhension accrue de la foi qui œuvre par amour et qui purifie l'âme. Ceux qui subissent des épreuves à cause de la vérité et qui font des sacrifices pour aider ceux qui sont dans le besoin agissent ainsi en raison de la présence de l'amour de Dieu dans l'âme. Lorsque des hommes et des femmes se donnent sans réserve à l'exercice d'œuvres désintéressées, c'est parce que la grâce du Christ est dans le cœur, moulant la vie à son exemple. Mais si le cœur est dépourvu de l'Esprit de Dieu, s'il ne possède pas la grâce abondante de Dieu, c'est qu'il n'y a pas d'huile dans le récipient avec la lampe. C'est qu'il n'y a pas de trésor dans le récipient terrestre. Pouvons-nous lire dans The Review and Herald, le 17 septembre 1908. L'objectif de ce processus est d'avoir la foi qui œuvre par amour et qui purifie l'âme. Et à ce stade, mes amis, les œuvres désintéressés sont le signe de la présence de l'amour de Dieu dans l'âme, ainsi que le signe de la grâce du Christ dans le cœur. Mes amis, bien que je puisse vous parler de la foi de Jésus, je ne peux pas vous rendre juste. Moi, Jean-Christophe Bolotte, je ne peux pas vous donner la foi qui œuvre par amour et qui purifie l'âme, car je ne suis pas l'homme dont parle l'apôtre Paul en Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux, rendons-nous maintenant dans Hébreux, chapitre 12. Verset 2, où Hébreux, chapitre 12, et au verset 2, et regardez celui que je ne suis pas, mes amis. L'apôtre Paul dit, « Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert à la croix, méprisant l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » C'est Jésus-Christ, mes amis. Ce n'est pas Jean-Christophe. La sainte foi, la foi de l'Église, la sainte foi que chaque membre d'Église possède provient de Jésus et doit revenir à Jésus. Jésus est le chef, est l'auteur de cette foi. Et il en est le consommateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui la rend complète, qui la rend parfaite. Et savez-vous pourquoi? C'est parce que c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Pouvons-nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Nous avons besoin d'une foi exactement comme celle du Christ, mes amis. En fait, nous avons besoin de la foi même de Jésus. Et dans quel but? Dans le but d'atteindre la justice de Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin de la foi de Jésus. Parce que c'est l'unique moyen d'arriver à la justice du Christ, mes amis. Considérons à présent ce que l'apôtre Paul déclara dans Romains, chapitre 3, et au verset 19 à 22. Et nous lirons, je lirai ces versets dans la King James Version, où il nous est dit, « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, parce que personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, car c'est la loi qui donne la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi de Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Selon l'apôtre Paul, une fois que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous sommes sous la loi, c'est-à-dire sous sa condamnation. Mais quelle est cette condamnation? Nous avons vu précédemment que la transgression de la loi de Dieu est péché et que le péché est égal à l'injustice. Ainsi, une fois que nous avons transgressé la loi de Dieu, nous sommes déclarés injustes par cette même loi. Et même si nous y obéissons ensuite, notre obéissance ne pourra pas changer notre condamnation. Car notre obéissance à la loi, dans ces circonstances, après l'avoir transgressée, ne sera pas en mesure de nous sauver et ni même de nous justifier. Et c'est pour cela que nous lisons dans Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9, et je vous invite à ouvrir vos Bibles, dans Philippiens chapitre 3, versets 8 et 9, et à suivre avec moi pendant que je lirai dans la King James Version ce qui suit. Bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu par la foi. En effet, même si la loi de Dieu est juste et bonne, elle ne peut qu'approuver ce qui est conforme à elle. Et c'est parce que la loi de Dieu est juste et bonne qu'elle ne peut pas reconnaître ceux qui l'ont transgressé comme étant juste. Voilà pourquoi nous lisons dans l'épître de Paul aux Galates. Je vous invite à suivre dans vos Bibles. Galates, dans vos Bibles, dans Galates, chapitre 2, versets 21 et 22. Alors que je lirai dans la King James Version, où il nous est dit « La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu ? Nullement, car s'il eût été donné une loi qui pût donner la vie, la justice viendrait véritablement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi de Jésus à ceux qui croient. » Jésus n'a jamais transgressé la loi de Dieu. Donc, il ne fut jamais sous la condamnation de la loi de Dieu. Par conséquent, la loi l'a reconnu comme étant un homme juste. De plus, il porta la condamnation de la loi, c'est-à-dire l'injustice que la loi a reconnue dans l'humanité. Or, mes amis, quand nous avons la foi en son sacrifice, dans le sacrifice que Jésus a accompli sous la croix du calvaire, eh bien, à ce moment-là, Jésus enlève notre condamnation. Il nous justifie et il nous donne sa justice. Et c'est pour cela que ce processus est appelé la justification par la foi ou la justice par la foi. Et nous pouvons considérer cela au chapitre 2 de l'épître de Paul aux Galates. Suivez avec moi dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2 et au verset 16. Je lirai dans la King James Version où il nous est dit « Sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi de Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Et lorsque nous sommes ainsi justifiés, mes amis, la loi ne peut que nous reconnaître comme étant juste. Amen. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons nous présenter devant le Dieu très saint. Et ce, en raison de l'assurance de Christ. Rendons-nous maintenant dans Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3 et au verset 11 et 12, pour considérer cela. Et suivez avec moi, tandis que je lirai dans la King James Version. Selon le plan éternel qu'il, c'est-à-dire Dieu, avait établi en Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la liberté de nous approcher avec confiance par sa foi. La foi de qui? Par sa foi. C'est qui la dernière personne mentionnée? C'est Jésus. Par la foi de Jésus, mes amis. Mes amis, c'est Jésus seul qui peut nous donner accès au Dieu saint. Voilà pourquoi Jean écrivit dans sa première épître et au chapitre 2. Rendons-nous dans 1 Jean. Chapitre 2, 1 Jean. 1 Jean, première épître de Jean, au chapitre 2. Et au verset 1er, où nous lisons, Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. La Bible appelle Jésus-Christ le juste. Mais pourquoi est-il appelé ainsi? La réponse se trouve dans Galates, chapitre 2 et au verset 20. Je vous invite à vous rendre dans Galates, chapitre 2, verset 20, et à suivre la lecture que je ferai dans la King James Version. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Ce n'est que par la foi du Fils de Dieu, mes amis. Ce n'est que par la foi de celui qui vécut dans la même chair que la nôtre que nous sommes capables de vivre une vie juste dans la chair. Et lorsque nous recevons Jésus comme notre sauveur personnel, Jésus vit en nous par la foi. Et c'est là, mes amis, la véritable doctrine de Christ en vous. Il s'agit du Fils de Dieu vivant en vous par la foi. Considérons à présent pourquoi il est important d'avoir le Fils de Dieu vivant en nous par la foi. Pour cela, rendons-nous dans 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5, et lisons les 5 premiers versets. 1 Jean, chapitre 5, et lisons les 5 premiers versets. 1 Jean, chapitre 5, et je lirai à partir du verset 1er. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu, et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Or, ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ceux qui croient véritablement que Jésus est le Christ sont ceux qui croient qu'il est véritablement le Fils de Dieu. De telles personnes sont de véritables chrétiens. Ceux qui sont véritablement nés de nouveau sont ceux qui ont vaincu le monde. De telles personnes sont de véritables enfants de Dieu. Et mes amis, lorsque vous êtes un chrétien, lorsque vous êtes un enfant de Dieu, c'est parce que vous avez la foi qui vous rend capable de garder les commandements de Dieu. Mes amis, est-ce que vous êtes vaincus par Satan au moyen du péché? Si tel est le cas, vous avez alors besoin de la foi de Jésus, parce qu'elle est le bouclier par le moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, d'après ce que Paul écrivit aux Éphésiens dans son épître au chapitre 6 et au verset 16. Satan est le maître du péché, mais également de la bête et de son image. Par conséquent, ceux qui n'ont pas remporté la victoire sur le péché seront vaincus par la bête et son image. Et mes amis, une telle condition, un tel état de choses ne correspond pas au dernier peuple de Dieu sur terre, duquel il nous est dit dans Apocalypse chapitre 15, verset 2. Rendons-nous dans Apocalypse et au chapitre 15 et considérons l'état, la caractéristique de ce peuple. Apocalypse 15, 2. Que nous a-t-il dit ici? Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et sa marque et le nombre de son nom, qui se tenaient sous la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Mes amis, ceux qui seront sous la mer de verre, les 144 000, ce sont des personnes qui auront remporté la victoire sur la bête et sur son image. Ainsi, ceux qui sont d'authentiques chrétiens sous le message du troisième ange constitueront les personnes justes et saintes d'Apocalypse 22, verset 11. Parmi les pionniers adventistes, rares étaient ceux qui comprenaient et parlaient de la foi de Jésus. Ellen G. White faisait partie de ces personnes. Et bien que la justice de Dieu par la foi de Jésus n'était pas bien comprise au sein de l'Église adventiste du septième jour de son époque, Dieu lui avait donné de comprendre pleinement cette vérité, mais également de la présenter à l'Église, afin qu'il en soit de même pour ses membres. Elle déclara que le message qui sauve les âmes, le message du troisième ange, est le message qui doit être donné au monde. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus sont tous deux importants, extrêmement importants, et ils doivent être donnés avec une force et une puissance égales. On a surtout insisté sur la première partie du message et la dernière partie de manière fortuite. La foi de Jésus n'est pas comprise. Nous devons en parler, nous devons la vivre, nous devons prier à son sujet et éduquer le peuple à introduire cette partie du message dans leur vie domestique. Que cette pensée soit en vous, laquelle était également en Jésus-Christ. Déclara-t-elle dans The Ellen G. White, 1888 Materials, à la page 430, paragraphe 2. Et, mes amis, cela était tellement clair pour elle que lorsqu'elle vit les jeunes pasteurs, A.T. Jones et Wagoner, lorsqu'elle vit que ces jeunes pasteurs étaient en train de présenter ce message avec une plus grande clarté que la sienne, elle se mit alors à les encourager. Considérons l'une de ses déclarations où elle parle de Wagoner ainsi que de ce message. Dans le même livre et de la page 212 à 217, nous lisons « On accorda à l'ancien E.J. Wagoner le privilège de parler de manière visible et de présenter ses vues sur la justification par la foi ainsi que sur la justice du Christ en rapport avec la loi. Cela n'était pas une nouvelle lumière, mais une ancienne lumière placée où elle devait l'être, dans le message du troisième ange. Quel est le fond de ce message? Jean vit un peuple. Il dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, 12. Jean vit ce peuple juste avant qu'il ne vit le Fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Verset 14. La foi de Jésus a été négligée et traitée d'une manière indifférente et insouciante. Elle n'a pas occupé la position prééminente dans laquelle elle fut révélée à Jean. La foi en Christ en tant qu'unique espérance du pécheur a été largement mise à l'écart, non seulement dans les discours donnés, mais dans l'expérience religieuse de presque tous ceux qui prétendent croire au message du troisième ange. Le message du troisième ange est la proclamation des commandements de Dieu et de la foi de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi de Jésus-Christ n'a pas été proclamée par les adventistes du septième jour comme d'égale importance. La loi et l'évangile vont main dans la main. Je ne trouve pas de langage pour exprimer ce sujet dans sa plénitude. La foi de Jésus. On parle d'elle, mais on ne la comprend pas. Qu'est-ce qui constitue la foi de Jésus et qui appartient au message du troisième ange? Jésus devenant notre porteur du péché, afin qu'il puisse devenir un sauveur pardonnant le péché. Il fut traité comme nous méritions d'être traités. Il vint dans notre monde et prit nos péchés, afin que nous puissions prendre sa justice. La foi en la capacité du Christ à nous sauver amplement, pleinement et entièrement est la foi de Jésus. Amen. Considérons maintenant quelques vues du pasteur Wagner concernant la foi de Jésus ainsi que la justice. Dans The Present Truth, il écrivit que la foi de Jésus fera pour nous ce qu'elle fit pour lui. Et comme elle lui permit de voir la joie qui fut établie devant lui, et donc d'endurer la croix et de mépriser la honte, ainsi elle nous permettra de marcher joyeusement dans le sentier chrétien dont les conflits et les épreuves sont inférieurs aux siens. À Gethsémané et au Calvaire, la foi de Jésus rencontra le test suprême et en triompha glorieusement. Et cela est également un triomphe éternel pour ceux qui le suivent. Ayant enduré le plus grand test, cette foi endurera sans aucun doute tous ceux qui lui sont inférieurs. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5. Verset 4. Et quelques années après, il écrivit que la couronne de la victoire est la paix. Et celle-ci nous fut donnée car Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Nous savons donc que Christ nous donne la victoire qu'il remporta une fois pour toutes. Par conséquent, notre combat n'est pas de remporter la victoire, mais de la garder. Nous sommes exhortés à garder ce qui nous a été confié. La victoire est dans la foi de Jésus. Et si nous gardons la foi, nous ne perdrons jamais la victoire. Amen. Bien-aimés, voulons-nous de cette victoire sur le péché, laquelle nous conduira à la victoire sur la bête et sur son image? Si oui, nous devons alors recevoir la justice de Dieu par le moyen de la foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et étant donné que Christ vivra en nous, il nous fortifiera de sorte que nous serons capables de garder les commandements de Dieu et d'entrer dans son royaume céleste. Nous allons maintenant voir pourquoi il est important, surtout lors des derniers jours, de garder la foi du Fils de Dieu et non celle d'un autre. En Daniel, chapitre 12, Daniel, chapitre 12, rendons-nous ensemble dans Daniel, chapitre 12, et considérons le verset premier, où il nous est dit, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. » Dans ce verset, Michaël, c'est-à-dire Jésus, a fini son œuvre d'intercession dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Par conséquent, son peuple qui vit sur la terre à ce moment-là devra attendre d'être délivré de la chair sans péché. Et pourquoi cela? Car le peuple de Dieu sera sans médiateur puisque l'intercession sera terminée. Ainsi, le peuple du Christ, à ce moment-là, ne péchera plus. Il ne devra plus pécher. Et pourquoi il lui sera possible de ne plus pécher? Cela sera en vertu de l'œuvre de Michaël, leur souverain sacrificateur. L'œuvre qu'il accomplit depuis 1844, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Mais que signifie le nom Michaël? Ce nom vient de l'hébreu Michaël, lequel signifie « qui est semblable à Elohim », c'est-à-dire Dieu. Et mes amis, de manière intéressante, nous lisons dans l'évangile de Jean. Rendons-nous dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Jean, évangile de Jean, selon Jean, chapitre 5, et considérons ensemble les versets 17 et 18. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 17 et 18. « Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. » Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Sur terre, Jésus était celui qui était semblable ou égal à Dieu. Et c'est à cause de cela, mes amis, que les Juifs lui faisaient la guerre. Mais la Bible nous indique quelle est l'origine de ce conflit. En effet, en Ésaïe, chapitre 14, verset 14, Ésaïe, rendons-nous dans ensemble, ouvrons nos Bibles, rendons-nous dans Ésaïe, chapitre 14, et considérons le verset 14, où nous lisons concernant Lucifer, c'est-à-dire celui qui devint ensuite Satan. Et voici les paroles qu'il prononça, Lucifer, celui qui est ensuite devenu Satan. « Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Mes amis, Satan inspira les Juifs à faire la guerre au Christ sur terre, continuant ainsi celle qu'il commença au ciel, là où Jésus était appelé Michaël. Le refus de reconnaître l'identité de Jésus a été, est et continuera à être la conséquence de la rébellion de Satan. Mais le peuple que Michaël délivrera dans les derniers jours ne sera pas un peuple rebelle. Car les membres de ce peuple, mes amis, connaîtront et accepteront l'identité de leur souverain sacrificateur. Oui, ils connaîtront et accepteront la foi de Michaël, celle du Fils de Dieu. Et cette foi les délivrera du péché. Il nous est également parlé de ce peuple au verset 2 et 3 du chapitre 12 de Daniel. Retournons dans Daniel et lisons les versets 2 et 3. Où il nous est dit « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Ceux qui seront considérés comme des étoiles brillantes seront ceux qui auront amené plusieurs à la justice. Et ce, en raison de la foi du Fils de Dieu agissant dans leur vie, mes amis. Par conséquent, les autres groupes de prédicateurs seront considérés comme des étoiles tombées, et ce, en raison du fait qu'ils auront conduit des gens dans l'injustice. Parce que, mes amis, si vous n'avez pas la foi du Fils de Dieu, vous ne pouvez pas conduire les gens à la justice. Vous ne pouvez que les conduire dans l'injustice, mes amis. Et nous pouvons être sûrs, par conséquent, que ces personnes ne seront pas conduites par Michaël, mais bien par celui qui voulait et veut encore être Michaël, c'est-à-dire le diable, Satan, mes amis. Ces personnes-là, ces prédicateurs-là, qui veulent emmener les gens à la justice de Dieu, sans leur présenter la foi du Fils de Dieu, mes amis, mais la foi de la seconde personne de la Trinité, ce n'est pas Dieu qui les envoie, mes amis. Et voilà les deux groupes qui nous sont présentés dans Apocalypse 14, sous le message du troisième ange. Les justes et les injustes, mes amis. Voilà les deux groupes. Plusieurs doivent être amenés à la justice. Et avec ou sans nous, cette œuvre sera accomplie. Où serons-nous, mes amis? Où sommes-nous? Quel genre de justice avons-nous? Le temps est certainement venu d'inviter Jésus dans notre cœur et de vivre. Le temps est venu pour nous de changer nos vêtements. Car en Ésaïe chapitre 61 et au verset 10. Dans Ésaïe chapitre 61 et au verset 10, il nous est dit: je me réjouirai en l'Éternel. Et mon âme s'égayera en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, et il m'a couvert du manteau de la justice, comme un époux se pare d'un diadème, et comme une épouse s'orne de ses joyaux. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette révélation de Jésus. Merci pour ce message du troisième ange qui nous amène à nous préparer pour te rencontrer. Et pour cela, nous avons besoin, Seigneur, de rencontrer, d'être en conformité avec ta loi. Et tu nous donnes le moyen d'y parvenir. Tu as envoyé ton Fils vivre une vie parfaite sur terre. Et il est l'auteur et le consommateur de la foi, celle que nous avons, celle que tu as départie à chaque homme. Et il est prêt à rendre cette foi que nous avons, eh bien, à la compléter, à la rendre parfaite, de sorte que nous puissions, eh bien, par cette foi de Jésus, atteindre la justice, sa justice, la justice de ton Fils Jésus-Christ. Alors, tendre Père Céleste, que nous puissions, eh bien, développer cette foi afin de marcher dans le sentier de la justice et de vivre une vie qui te soit agréable et d'être les personnes que tu veux que nous soyons, là où tu veux que nous soyons, tendre Père Céleste. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci ce que tu fais pour nous et ce que tu feras encore. Nous t'avons prié, Père, dans le nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen.